BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique. Et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business, Guillaume Paul.
Allez, il est bientôt 18h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, nous avons cette question, est-ce que cette fois c'est la fin du parcours pour Arnaud Lagardère? Il a dû renoncer hier après sa mise en examen à l'ensemble de ses mandats exécutifs. On va voir ça avec Mathieu Pechberti bien sûr dans un instant. Sinon, ça a été quand même la bonne nouvelle aujourd'hui, la France a fait quand même un petit peu de croissance au premier trimestre, plus 0,2% sur les trois premiers mois de l'année. C'était pas gagné, nous a dit l'INSEE ce matin. On parlera tout ça bien sûr avec nos experts qui arrive à partir de 18h30 et puis avec eux on parlera entre autres sujet du reste à charge, vous savez, sur le compte personnel de formation 100 €. Ça entre en vigueur demain 1er mai. Puis deux invités au micro d'Edwige Chevrillon dans une dizaine de minutes, le patron France de Spotify Antoine Monin et puis Nathalie Belon, directrice générale de Sodexo Live, avec elle on va se projeter bien sûr sur les Jeux Olympiques. Voilà le programme non exhaustif bien sûr, on est ensemble jusqu'à 20h. Très bonne soirée.
Good evening business, le journal.
Donc n'ayons pas peur des mots, le groupe Lagardère est en plein brouillard ce soir. Bonsoir Mathieu Pechberti.
Bonjour Guillaume.
Arnaud Lagardère, donc mis en examen entre autres pour abus de biens sociaux. Ça on l'a appris hier soir et beaucoup s'y attendaient Mathieu. Par contre, ce que personne n'avait vu venir, c'est qu'il allait être interdit du coup de gérer le groupe. Conclusion, Lagardère n'a plus de patron depuis ce matin, c'est ça Mathieu finalement?
Oui exactement, c'est vraiment une double déflagration quelque part. La mise en examen d'Arnaud Lagardère était effectivement attendue, elle est sur deux volets principalement. D'abord l'abus de biens sociaux concernant ses sociétés personnelles, pour avoir utilisé l'argent de ses sociétés personnelles à des fins personnelles. Ce sont les sociétés qui sont directement actionnaires du groupe Lagardère. Et puis il y a un autre volet qui concerne directement le groupe Lagardère, cette fois où il est mis en examen pour les motifs d'abus de pouvoir, achat de votes, notamment pour avoir poussé ou en tout cas influencé le Qatar, à l'époque c'était en 2018, à changer ses votes en Assemblée Générale. Alors évidemment il conteste cette mise en examen, il va déposer un recours, il est évidemment présumé innocent en attendant la fin de l'instruction et le réquisitoire du parquet national financier, mais la décision des juges d'instruction a été accompagnée d'une décision elle inattendue, qui est celle de l'interdiction de gérer, c'est-à-dire qu'Arnaud Lagardère depuis hier soir n'a plus le droit de gérer n'importe quelle société, donc notamment celle qu'il dirigeait. À la fois il avait plusieurs fonctions qu'il cumulait au sein du groupe, à la fois il était PDG de Lagardère, oui. PDG de la plus grosse filiale du groupe qui est Hachette, hein, Hachette Livre, l'éditeur, et puis une société qui dans laquelle est logé les radios du groupe Lagardère, et notamment Europe 1. Donc sur ces trois postes, il a dû se démettre de ses fonctions, en tout cas renoncer à ses fonctions en attendant la suite de l'instruction. Et donc chez Lagardère et chez Vivendi, hein, qui est propriétaire du groupe Lagardère depuis pas mal de mois, c'est un petit peu la panique, car il faut maintenant trouver des remplaçants pour toutes ses fonctions.
Et le conseil d'administration dit qu'il va se réunir assez vite, hein, très prochainement, pour prendre les mesures provisoires dont on ne connaît pas encore la nature, bien sûr, mais j'imagine que on va essayer de trouver très vite une solution pour pallier à cette absence momentanée, peut-être d'Arnaud Lagardère. Merci beaucoup Mathieu, puis on parle de tout ça avec nos experts, évidemment, jusqu'à 20h sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, je vous disais, ça a été la bonne nouvelle de la matinée. Finalement, la France a fait un petit peu de croissance quand même au premier trimestre. Plus 0,2%, nous a dit l'INSEE, qui, il n'y a pas si longtemps, prévoyait zéro. Apparemment, la consommation des ménages s'est un petit peu réveillée ces derniers mois, mais ça aussi, on en reparle bien sûr tout au long de la soirée sur BFM Business. Et puis, dans l'actualité, on voulait vous parler de ce gros accord qui a été conclu entre les pays du G7 aujourd'hui à Turin. Bonsoir Alexandra Paget.
Bonsoir Guillaume.
Gros accord parce qu'on s'est accordé sur un calendrier pour sortir cette fois, mais définitivement, du charbon, Alexandra. Hein.
Et ce sera pour 2035. Les ministres du climat, de l'énergie et de l'environnement du G7 se sont engagés à fermer progressivement leurs centrales à charbon d'ici là. Une première historique est la concrétisation des engagements pris à la COP28 à Dubaï sur la transition des énergies fossiles dans le monde. Cet accord pour le climat intervient après une longue bataille, Guillaume. La France voulait 2030, rappelez-vous. Le Japon, dont un tiers de l'électricité provient du charbon, ne voulait pas entendre lui parler de date butoir.
Bon, sauf que cette promesse, comme celle de Dubaï, elle est un petit peu incomplète. Il y a un mais quand même dans l'histoire, Alexandra. Hein.
Il faut lire l'ensemble des mentions dimension du texte, hein, un peu comme les petits astérisques sur les publicités. Cet accord ne concerne pas en effet toutes les centrales à charbon, seulement celles qui ne sont pas équipées de systèmes de captation de CO2. En clair, elles pourront continuer de fonctionner tant qu'elles démontrent que le CO2 émis par leurs activités est aspiré et stocké grâce à diverses technologies présentées par les industriels comme la solution à leurs émissions de gaz à effet de serre. Sauf qu'un programme des Nations Unies pour l'environnement établit que ces mécanismes ne permettent d'absorber qu'une partie très faible de ces émissions.
Voilà donc pour cet accord un petit peu incomplet, on va le dire comme ça finalement, du côté de Turin en Italie entre les pays du G7. Merci beaucoup Alexandra. Alexandra Paget avec nous sur BFM Business. Dans l'actualité des entreprises, on y revient. Énorme opération aujourd'hui dans le secteur des satellites. L'européen SES rachète son concurrent américain Intelsat pour un peu moins de 3 milliards d'euros. Ce qui va lui permettre de rivaliser, alors un petit peu avec les constellations américaines, Starlink côté Elon Musk et Kuiper côté Amazon. Mais on vous racontera ça plus en détail dans le journal de 19h. Et puis on a eu beaucoup d'entreprises qui ont publié ce matin des chiffres sur le premier trimestre. Air France KLM d'abord, c'est pas bon. Là on est sur une perte d'un peu plus de 500 millions d'euros. Apparemment le groupe, comme on dit, les a un peu cumulés sur ce début d'année. Jean-Baptiste Huette.
2024 ne débute pas sous les meilleurs auspices. Air France KLM a souffert en ce début d'année, une perte nette de 522 millions d'euros contre 344 millions l'an dernier à la même époque. Et pourtant, entre janvier et mars, la compagnie a transporté quasiment 21 millions de passagers, soit à peu près 6% de plus que l'an dernier sur la même période. Cela n'a pas suffi. La compagnie a dû faire face à la hausse du coût des pièces de rechange, ainsi que des problèmes d'approvisionnement, la signature d'un accord salarial chez KLM qui a coûté 50 millions, auxquels viennent se rajouter 50 autres millions de dédommagements pour des retards et des annulations de vol. Enfin, l'activité cargo poursuit sa baisse de régime. Conséquence immédiate, le groupe va geler les embauches des personnels administratifs et non opérationnels. Ben Smith, le patron de la compagnie, veut toutefois rester positif. Les perspectives financières sont maintenues pour le reste de l'année. Un fort rebond de l'activité est attendu cet été, explique Ben Smith, avec notamment les Jeux Olympiques.
Voilà, premier trimestre difficile pour Air France KLM, puis premier trimestre difficile aussi pour Stellantis, parce que le chiffre d'affaires a baissé de 12% sur un an, avec de mauvaises performances, notamment en Europe, aux États-Unis. Le groupe revoit à la baisse son objectif de marge opérationnelle sur le premier semestre. Et dans tout ça, l'action a perdu 10% à la Bourse de Paris. On verra ça avec Étienne Braque dans un instant. Et puis, on parlait voyage il y a quelques instants avec Air France. Eh bien, on a des chiffres qui nous confirment que du côté des déplacements professionnels, ben, c'est vraiment reparti. Alors, on n'est pas et on ne reviendra pas au niveau d'avant Covid, mais on n'a pas enterré clairement les déplacements pro dans les entreprises. Hélène Cornet.
Plus aucune entreprise ne remet en cause la nécessité du voyage d'affaires. Elles étaient encore 8% à trouver que c'était une dépense inutile l'an dernier. Elles sont moins de 1% aujourd'hui. Que ce soit les déplacements à but commerciaux pour rencontrer clients et fournisseurs ou les déplacements internes, 74% des sociétés interrogées ont l'intention de réunir leur équipe cette année. En physique, les visioconférences sont de moins en moins appréciées. Pour autant, la maîtrise des coûts reste la priorité. Les entreprises ont resserrer les conditions, utilisation de tarifs négociés, anticipation des déplacements, les notes de frais sont passées à la loupe, à tel point que le premier critère d'évaluation des travel managers est la recherche d'économies. Autre enseignement du baromètre, la responsabilité environnementale est désormais de plus en plus prise en compte. Le train plutôt que l'avion, par exemple, c'est devenu plus important que l'expérience ou la satisfaction de celui qui voyage.
Voilà le voyage pro, le déplacement professionnel qui n'a pas dit son dernier mot. Hélène Cornet avec nous sur BFM Business. 18h07, on va sur les marchés. Les marchés, Étienne Braque, bonsoir depuis Euronext à la Défense.
Bonsoir.
Pour BFM Business, on est dans le rouge ce soir encore et on ne dit pas merci à Stellantis apparemment aujourd'hui, Étienne. Hein.
Ah bah très clairement, l'ensemble du secteur automobile qui plonge en bourse, Stellantis moins 10%, vous avez Mercedes qui perd 4% ou encore Volkswagen qui perd également plus de 3% à Francfort, avec des baisses de volume et puis dans le même temps des baisses de chiffre d'affaires et des groupes qui sont prudents mais quand même confiants mais plutôt prudents pour cette année, avec notamment les véhicules électriques où la croissance est très clairement en train de se calmer. Néanmoins, vous avez Stellantis qui maintient ses objectifs pour cette année, mais le marché a du mal à y croire. 20 1,88€ ce soir à la clôture. Dans le sillage, vous avez Renault qui perd un peu plus de 5%. C'était la dernière séance du mois d'avril, un mois de pause sur les marchés, notamment à Paris où le CAC 40 perd 2,7%. Premier mois de baisse après 5 mois dans le vert. Le pétrole, lui, de son côté, recule également aujourd'hui et sur l'ensemble du mois, avec un cessez-le-feu qui est de plus en plus probable, selon certains analystes au Moyen-Orient. Et donc, par rapport à cela, le pétrole revient à 86$ pour le Brent, la référence. Et donc, l'indice parisien qui cale ce soir à la clôture, notamment sous les 8000 points, 7984 points, et une baisse de 3,7% sur l'ensemble du mois d'avril.
Merci beaucoup, Étienne. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street à la mi-séance. Bien sûr, le Dow Jones qui perd 0,87%, 38 053 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui perd 0,9%, 15 836, 18h09. Deux invités avec Edwige Chevrillon dans un instant. D'abord Antoine Monin, le DG de Spotify pour la France et Benelux. Et puis Nathalie Belon, directrice générale monde de Sodexo Live pour se projeter bien sûr par les Jeux Olympiques. À tout de suite.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. On va parler de musique, de Spotify tout d'abord avec Antoine Monin qui est le patron de Spotify pour la France et le Benelux. Bonsoir Antoine Monin.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Puis après on se préoccupera de savoir qu'est-ce que vont manger les 15 000 athlètes lors des Jeux Olympiques de 2024. Eh bien ça tombe bien parce que Nathalie Belon qui est la patronne de Sodexo Live sera avec nous. Elle a dévoilé tout à l'heure les menus, les 500 recettes. Antoine Monin, bonsoir, donc patron de Spotify, France Benelux. Et tout à l'heure, vous avez dévoilé combien, alors ce n'est pas complètement neutre, on verra pourquoi, combien vous reversez à tous les artistes français que vous avez. C'est 253 millions d'euros.
Absolument.
Progression quand même très significative, ça c'est en 2023, très significative par rapport à 2022. Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'en fait, au fur et à mesure que les Français se convertissent au streaming musical, et notamment à Spotify, notre business model, c'est qu'on reverse 70% de tous nos revenus aux ayants droit de la musique. Donc, mécaniquement, plus les Français se convertissent au streaming musical et à Spotify, plus nous renversons d'argent aux ayants droit de la musique. Et donc, aux artistes français. Et voilà, aujourd'hui, c'est 253 millions d'euros. Et on a vu que le marché français était un petit peu à la traîne par rapport à d'autres marchés européens dans l'adoption du streaming. Donc on est aujourd'hui heureux de voir que la croissance que les revenus générés par Spotify pour les artistes français augmente plus vite que le marché français. Donc Spotify permet en fait de dynamiser et d'accélérer l'adoption du streaming en France.
En fait, sur une écoute, vous reversez 70%, c'est ça, à l'artiste ?
Sur un euro d'abonnement ou de publicité qu'on récupère, une fois déduite la TVA, on reverse 70% aux ayants droit de la musique, au label, à la SACEM, à tout l'ensemble de l'écosystème des ayants droit, et selon les contrats que ces ayants droit ont avec les artistes, après les artistes.
Bien sûr, c'était une question un peu piège parce que j'imaginais bien qu'il y avait toute la chaîne musicale de l'industrie musicale que vous connaissez bien, qui était évidemment touchée, qui percevait ces 70% entre guillemets. In fine, ça revient combien à l'artiste ? Vous avez une idée, vous qui connaissez bien
quand même. En fait, c'est la question à laquelle on ne peut pas répondre. D'abord parce que nous, on reverse aux ayants droit et après, la chaîne est différente. Oui. Et les ayants droit ont tous un rôle et une valeur ajoutée très différente. C'est-à-dire qu'il y a des labels...
C'est juste pour avoir un ordre de grandeur, quoi.
Ça va de 1 à 10, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des labels qui investissent énormément, qui vont avancer beaucoup d'argent aux artistes pour produire, investir, etc. Donc, il est normal qu'ils récupèrent leurs investissements. Et il y a des artistes qui vont choisir de s'autofinancer. Donc, ils vont, envie de dire financer leur développement eux-mêmes, mais là évidemment ils gardent 100% de leurs revenus à l'origine.
Au niveau mondial, vous avez 260
Alors on a 200, on a 615 millions d'utilisateurs dans le monde, dont 239 millions d'abonnés.
Voilà, c'est ça. Taylor Swift, elle a dépassé le milliard d'écoutes en moins d'une semaine sur Spotify. C'est un record, c'est hors norme, non ? C'est la première fois que ça vous arrive.
C'est hors norme, mais...
C'est jamais arrivé avant ?
Le streaming n'a entre guillemets que 15 ans, donc c'est vrai qu'on est voué, j'espère, à battre record sur record au fur et à mesure que justement de plus en plus d'utilisateurs se convertissent au streaming. Mais aujourd'hui, je crois que le phénomène Taylor Swift, et on le verra la semaine prochaine, elle est à Paris pour 4 dates exceptionnelles, personne ne peut y échapper. C'est la superstar depuis quand même de nombreux nombreuses années aujourd'hui. C'est une femme incroyable, c'est une actrice, une artiste qui a pris sa carrière en main. Donc on est vraiment ravis de voir une artiste aussi talentueuse réussir à ce point-là sur Spotify.
Et c'est quoi l'équivalent en France ? C'est Aya Nakamura, c'est quoi ?
Aujourd'hui, entre autres, oui, c'est Aya Nakamura. C'est vraiment aujourd'hui l'artiste française qui s'exporte le plus. On a dévoilé récemment nos chiffres de notre campagne Loud & Clear, justement, dont c'est 253 millions d'euros. Donc par exemple, il est important de savoir que aujourd'hui, 50% des revenus générés par les artistes français sur Spotify proviennent de l'étranger. La France a beaucoup de talent, je crois que c'est une des devises de BFM Business. La ouais. France a tout pour réussir. Mais c'est vrai parce que 50% des revenus générés par les artistes français sur Spotify proviennent de l'étranger. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la musique française s'exporte bien de plus en plus. Ça veut dire que, et ce qui est intéressant, c'est que ça n'est pas que la French Touch, l'électro, les grandes stars comme David Guetta et Daft Punk, c'est aussi Aya Nakamura, c'est Charles Aznavour, c'est Manu Chao. Donc on voit aujourd'hui... Jul, bien sûr, ouais. évidemment. Ouais. Et ça n'est pas que dans les marchés francophones. On voit aujourd'hui que les marchés hors de France où la musique française est la plus écoutée, c'est les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni. Donc la musique française s'exporte de plus en plus sur Spotify et les artistes français comme Aya Nakamura ont de plus en plus de succès.
Alors, ça, c'est le côté positif. Côté négatif, c'est que effectivement, le gouvernement il veut mettre une taxe sur le streaming pour financer le Centre national de la musique. Donc Spotify vous êtes haro contre cette taxe sur le streaming. Du coup, vous avez dit ben, puisque c'est comme ça, alors que vous êtes partenaire de nombreux festivals, et ben les vieilles charrues claquent, il y aura plus de Spotify, il y aura plus de sponsoring, il y en a d'autres comme ça.
Non, c'était pas les vieilles charrues et c'est d'autres festivals mais qui sont chers à notre cœur par ailleurs, hein, Francofolie, Printemps de Bourges, mais avec qui on a toujours d'excellentes relations.
Oui, mais vous avez arrêté.
Bien sûr, mais c'est
pourquoi
c'est,
bien sûr.
Mais c'est un simple arbitrage économique, c'est pas du tout parce qu'on est fâché ou vexé, c'est juste que si le gouvernement choisit que Spotify, comme les autres plateformes de streaming, doivent verser plusieurs millions d'euros pour une taxe sur le streaming, bah c'est ça en moins de possible pour nos investissements. Donc on fait des arbitrages d'investissement. Le gouvernement français a choisi que cet argent aille au CNM. Bah nous, on doit faire des arbitrages. Vous savez, c'est probablement un autre parallèle avec le gouvernement français. Il y a ce qui s'appelle une économie des recettes, des dépenses. Nous, on ne peut pas se permettre de dépenser plus qu'on ne gagne, en tout cas pas éternellement. Donc on doit équilibrer nos comptes. On est ravis d'ailleurs de voir que récemment, on a enfin publié des chiffres qui montrent que le business model de Spotify fait ses preuves et que nous devenons profitables. Comment nous devenons profitables ? Ben, c'est en faisant des investissements qui sont mesurés, pensée et les arbitrages qui permettent justement de prouver que notre business model est solide. C'est important pour nous. C'est important pourquoi ? Parce que si on reverse 250 millions d'euros aux artistes français, ouais. c'est parce qu'on a un modèle, un business model solide. Et on doit combattre contre des Apple, des Amazon, qui sont beaucoup plus puissants que nous, qui ont les poches beaucoup plus profondes. On a pas mal de sujets avec eux. Il est important qu'on ait une bonne santé financière pour pouvoir rivaliser
Alors,
avec eux.
Alors, puisque vous parlez de bonne santé financière, je vous pose une question qu'on m'a beaucoup posée, sachant que j'allais vous avoir sur mon plateau. C'est de combien est-ce que Spotify va augmenter ses prix ? Alors, ne me faites pas une réponse de Normand.
Si, je vais vous faire une réponse de Normand, je suis désolé.
Pas vous, pas vous.
Ah si, mais on peut pas l'annoncer parce que, alors pareil, comment on fixe nos prix ? Comme on reverse 70% de tout ce qu'on gagne aux ayants droit, la façon dont on fixe nos prix doit être en accord avec les ayants droit. Oui. Donc on est en train de finir les négociations avec tous les ayants droit, ça viendra bientôt. C'est une augmentation de prix pour compenser cette taxe streaming, pour permettre de financer le CNM.
Donc ça sera l'équivalent, une valeur à peu d'exemple. Tiens, une taxe supplémentaire,
C'est exactement la chose qu'on explique au gouvernement français. C'est-à-dire que nous, on doit équilibrer nos recettes et nos dépenses. Donc, s'il y a une dépense supplémentaire...
Elle sera combien, cette taxe streaming ?
La taxe streaming, elle est à 1,2% du chiffre d'affaires.
Donc, vous allez augmenter le prix de l'abonnement à 1,2% ?
Si les accords avec les ayants droit permettent de faire des choses dans cet ordre-là, ça pourrait être de cet ordre d'idée, mais on doit terminer ces négociations et ces discussions.
C'est pourquoi ?
Dès qu'on aura fini ces discussions, mais j'espère dans pas trop longtemps pour qu'enfin on puisse répondre à cette question.
On a beaucoup parlé effectivement de musique. Est-ce que le podcast, ça marche beaucoup ? Ça peut prendre le relais ? J'ai lu une interview du patron de Sony Music qui disait en fait, voilà, l'industrie musicale va connaître de profonds bouleversements avec l'intelligence artificielle.
Bien sûr.
Et tout ça, est-ce que vous êtes d'accord et comment vous voyez ?
L'industrie de la musique, elle est sans cesse en évolution et c'est toujours la technologie qui l'a fait avancer. Ça a été le vinyle, ça a été le CD, ça a été la cassette, ça a été le MP3, c'était le streaming. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle, qui intervient surtout dans le processus de création.
Ah oui.
Et donc ça, c'est très important. Et il a raison. On est dans une de ces nouvelles révolutions de la musique enregistrée. Ça va permettre de grandes innovations. Ça va poser aussi des risques et des choses qu'il va falloir arbitrer dans le bon sens. Mais on travaille main dans la main avec les ayants droit comme Sony pour justement faire avancer le marché dans le bon sens.
Alors il y en a un, vous avez, enfin il y a un festival, enfin en l'occurrence c'est plus une cérémonie. Vous n'êtes pas, vous êtes partenaire, c'est les Flammes. Aya Nakamura a été récompensée là trois fois. Est-ce que vous êtes pour qu'elle chante aux Jeux Olympiques?
Ah, moi je serais ravi qu'Aya Nakamura représente la France aux Jeux Olympiques. C'est une des artistes françaises qui exporte le plus en France aujourd'hui. D'accord. Et dans des pays aussi variés que le Brésil, les États-Unis et l'Allemagne. Ce serait une excellente ambassadrice pour les Jeux Olympiques.
Oui, d'accord, ça tombe bien. On va en parler dans un instant. Merci,
merci
beaucoup
à vous.
Antoine Monin. On n'a pas complètement la réponse, mais on a presque la réponse.
La prochaine fois.
Merci beaucoup. Donc le patron de Spotify pour la France et le Benelux, si le marché français est un peu à la traîne, c'est en train d'aller mieux. En tous les cas, vous avez donc versé 253 millions aux ayants droit. Comme ça, on sait qu'il y a tout le monde à les payer. Merci beaucoup.
Merci, Edwige.
Tout de suite, notre invité, c'est Nathalie Bellon. C'est la patronne de Sodexo Live.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Bonsoir, Nathalie Bellon.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Je sais que vous faites très rare dans les médias. En général, on voit plutôt votre sœur Sophie Bellon pour les résultats de Sodexo. Vous, vous êtes la patronne de Sodexo Live.
Oui.
Alors en fait, c'est le point commun entre Roland Garros, la Tour de France, la Coupe du Monde de rugby, les courses de Ascot, les célèbres courses de Ascot, ou encore les Jeux Olympiques 2024, parce que c'est Sodexo Live qui va nourrir les quelques 15 000 athlètes qui vont être ici à Paris, en France. Comment est-ce que vous allez faire ?
Alors d'abord, Paris 2024 et les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est pour nous une aventure extraordinaire qui nous arrive. Donc effectivement, on va nourrir 15 000 athlètes de 200 nationalités différentes, c'est-à-dire qu'on va faire 45 000 repas par jour dans un restaurant qui sera le plus grand restaurant du monde, dans la Cité du Cinéma, au milieu du village olympique, ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, parce que quand un athlète doit faire une épreuve de compétition à 8 heures du matin,
quand il fait le marathon, c'est pas la même chose que quand il saute à la perche. Oui.
À 4 heures du matin et pas à 8 heures moins quart juste avant de faire son épreuve. Donc ça, c'est très important. Donc pour nous, ça va être un exploit d'abord culinaire, puisque on va devoir nourrir ces 15 000 athlètes, aussi bien la gymnase que le judoka. Donc ils ne mangent pas tout à fait la même chose. Donc c'est...
Et puis, question de religion aussi, question de régime.
Alors donc, on est en train d'élaborer 500 recettes, qu'on a d'ailleurs présentées aujourd'hui. On va avoir quatre zones dans ce village olympique. Une zone française, une zone reste du monde, une zone africaine et carabienne, une zone asiatique. Et puis, on va aussi avoir un exploit gastronomique, puisque tous ces athlètes viennent à Paris en France. On va aussi faire un corner avec des grands chefs qui vont leur faire déguster la gastronomie française, qui sont Alexandre Maglia, Amandine Chéniaud et Akram Benalal.
Alors, juste en un mot, je suis rentrée tout de suite dans le vif du sujet. Sodexo Live, donc je disais, c'est quoi ? Vous avez plein d'endroits mythiques, notamment le Jules Verne qui vient de décrocher une deuxième étoile.
Oui.
En un mot, c'est quoi Sodexo Live ?
Alors, en un mot, Sodexo Live, c'est un des leaders mondiaux dans la restauration et les services, dans le sport, l'événementiel, la culture, les centres de convention. Et donc, voilà, on est principalement dans trois pays, les États-Unis, la France et l'Angleterre. 60% de notre chiffre d'affaires est aux États-Unis. On est donc dans des stades, on est dans des arénas, on est dans des aquariums, dans des musées, on est aussi dans des grands convention centers, on est dans les lounges aéroports. En France, on a la marque Le Nôtre, donc, et oui. Puis on gère aussi les restaurants de la Tour Eiffel, mais on a aussi des bateaux. Qui
les bateaux parisiens, il y en a même un qui s'appelle Pierre Bellon,
il y en a
du
un
nom de votre père qui a fondé Sodexo.
Exactement, donc on a des bateaux-bus, bateaux parisiens, les yachts de Paris. Comme vous l'avez dit, on a 6 étoiles au Michelin, donc 3 étoiles au Précatelan, 2 étoiles, on vient d'avoir notre deuxième étoile au Jules Verne, et on a le seul bateau dans le monde étoilé, le Don Juan Jean II, qui est un bateau de la flotte des yachts de Paris, et donc qui a eu une étoile il y a un an et demi. Voilà.
Alors, si on revient sur ces Jeux Olympiques, pour vous, c'est un business qui s'élève à combien ? On peut savoir, ça rapporte combien ?
C'est un business.
C'est énorme.
C'est un business qui...
Comment est-ce que vous avez fait pour décrocher ?
Alors déjà, ça fait 6 ans que je me prépare pour, si j'ose dire, gagner les Jeux Olympiques. Donc, avant même que la France sache que les Jeux Olympiques viendraient à Paris, je me suis préparée pour répondre à cet appel d'offres des Jeux Olympiques. On a gagné. Donc, c'était important pour Paris 2024 d'avoir des Jeux très environnemental, donc on va réduire notre empreinte carbone par deux par rapport aux précédents Jeux Olympiques.
Ça se traduit comment ? Parce que c'est alors, bien dans la com, mais ça se traduit comment pratiquement ?
Alors, ça veut dire pratiquement, d'abord, on va utiliser un site existant pour le restaurant des athlètes, le plus grand restaurant du monde, qui est la Cité du Cinéma. Ensuite, au niveau des matières premières, 85% des matières premières seront françaises et 25% de ces matières premières viendront de producteurs locaux.
La région
à 250 km autour de la région Île-de-France. Ensuite, on va faire un exploit humain parce qu'on va devoir recruter. On a recruté 6000 personnes, on est à 85% des 6000 personnes, donc c'est quand même un exploit humain. Et sur ces 6000 personnes, 15% viendront des zones défavorisées. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. On a sur les 6000, 1000 personnes de Sodexo qui vont venir travailler.
Et vous les avez formés comment ? Il y a des questions de sécurité aussi,
oui,
j'imagine.
Oui, bien sûr.
Il faut passer au crible tous les CV que
voilà,
vous,
donc on les
avez
recrute, reçus. On les forme et après on va les engager aussi pour cet événement. C'est ce qu'on est en train de faire. On l'a commencé il y a 2 ans. Donc on a recruté effectivement déjà des collaborateurs Sodexo. On en a 35 000 en France de collaborateurs et 430 000 dans le monde. Donc on va avoir la plupart des collaborateurs Sodexo viendront de France, mais on aura aussi 20 chefs étrangers.
Et des volontaires, vous faites non, comment ça se passe
non,
la sélection des gens.
Alors la sélection des gens, déjà il faut qu'ils veuillent venir travailler pour les Jeux Olympiques. Ensuite, on les a recrutés. Il y a beaucoup de gens de la région parisienne. Ceux qui viennent de la province, on va les loger. Donc, c'est le volontarisme. Hein. Aujourd'hui, on est dans les clous et on est ravis. On a nos 6000 personnes bientôt qui seront recrutées.
Et les cuisines seront où ?
Alors, on est en train de monter...
15 000 athlètes, c'est quand même beaucoup, 7 jours sur 7. Avec, je crois, à la Concorde, il y aura un restaurant végétarien.
Alors,
si j'ai bien compris,
alors,
non
aussi,
j'ai mal compris.
Alors, on va d'abord, donc, on a la restauration des athlètes dans un premier temps. Et ensuite, on va faire 14 sites de compétition. Donc, sur la cuisine, dans le restaurant des athlètes, on aura 30% de cuisine végétarienne. Et pour les athlètes, pour les fans, pardon, dans les sites de compétition, ça sera 60% de cuisine végétarienne. Je viens d'ailleurs, parce qu'on a fait ce matin la dégustation des plats devant la presse, j'ai donc dégusté un hot dog. La saucisse, vraiment, on a vraiment l'impression que c'était un hot dog, mais la saucisse est faite avec de la pomme de terre, de la pomme et du pois chiche. Donc, vous voyez, ça sera un hot dog végétarien.
Et pardonnez-moi, c'est moi qui vous posais une question et je n'ai pas attendu la fin de votre réponse. C'est un chiffre d'affaires de combien pour vous, pour Sodexo ?
C'est un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros.
Oui. Et qui sera rentable ou pas ? Parce que pour vous, c'est une organisation colossale.
Ça sera rentable, oui.
Oui, oui. C'est un... Pour vous, le plus grand défi, ça va être quoi exactement ?
Le plus grand défi, c'est d'abord un défi sportif, mais c'est un défi humain. Quand on fait travailler 6000 collaborateurs, d'abord, il faut les recruter, il faut les former. Et ensuite, pendant 5 semaines, il faut les manager. Donc, c'est un défi humain. Mais en même temps, c'est un engagement tellement incroyable au niveau de Sodexo et de Sodexo Live. Je peux vous dire que je voyage assez régulièrement. Et la première chose que les gens me disent, les collaborateurs ou même les clients, oui, c'est alors, vous faites les Jeux Olympiques, on veut travailler pour les Jeux Olympiques. Voilà.
Oui, parce que pour l'image pour Sodexo Live, c'est quand même incroyable. Juste un mot, vous venez juste d'avoir 2 étoiles au Jules Verne.
Oui.
Donc, magnifique restaurant sur la Tour Eiffel, bien sûr. Frédéric Anton, c'est pour vous, c'est Vous avez combien de restaurants comme ça qui ont deux étoiles? Donc il y a le nôtre.
On a 6 étoiles aujourd'hui. Oui. Sodexo Live a 6 étoiles. Le premier, c'est le Pré-Catelan. Oui. Donc au Bois de Boulogne avec Frédéric Tanton et le nôtre. Le deuxième, donc c'est le Jules Verne. Hein. Oui. On a eu notre première étoile et on vient d'avoir la deuxième étoile. C'est la première fois en 43 ans que le Jules Verne a une deuxième étoile. Il n'y avait jamais eu de deuxième étoile et je peux vous dire que c'est un exploit parce que les cuisines ne sont pas énormes et qu'on est sur la Tour Eiffel. Et le troisième, c'est le Don Juan II qui est le seul bateau dans le monde
sur la Seine
étoilé.
Non, c'est juste, je voulais vérifier, je vous ai reposé la question, pardon. En conclusion, à l'étranger, vous n'en avez pas d'autres?
Non.
Non, pas d'étoilé. Prochaine étape.
Mais à l'étranger, on a des très beaux sites, des très beaux événements. On va faire là, dans 2 jours, le Grand Prix de Miami à Miami, Formule 1. Ouais. Et on vient de faire le tournoi de Indian Wells et on fera l'année prochaine le Super Bowl.
Vous avez un métier très difficile. merci beaucoup, merci. Nathalie Belon, d'être venue ici. La première fois, la patronne de Sodexo Live, donc ces Jeux Olympiques avec un enjeu considérable pour votre groupe. Merci beaucoup. Tout de suite, entre Guillaume Paul, toute l'info.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h35. Ouh là là, ils sont déjà bien...
dissipés.
C'était dissipé. Bonsoir Audrey.
Bonsoir Guillaume.
Audrey Tcherkov avec nous, bien sûr, jusqu'à 20h. Et puis nos experts qui sont là, Mathieu Pechberti, bonsoir.
Rebonsoir.
Emmanuel Lechypre, bonsoir. Bonsoir. Edwige Chevrillon, rebonsoir. C'est la même équipe qu'hier soir, mais ils sont d'une efficacité
remontable. Ah bah voilà, que vous voulez, donc, on les garde.
Beaucoup de choses à voir ce soir. Alors, un mot quand même de ce que nous a dit Nathalie Belon, directrice générale monde de Sodexo Live. Quel défi logistique, 45 000 repas, 15 000 athlètes, mais 45 000 repas par jour pour 15 000 athlètes.
Ouais.
Parce que le judoka, il mange pas pareil que le basketteur ni le marathon.
C'est une organisation. Ils ont recruté, donc en tout, il y aura 6 000 personnes de Sodexo. Oh, il leur reste encore 1 000 personnes à trouver. Il y a des gens qui viennent un peu du monde entier. Il y a des chefs. Enfin, non, c'est une organisation absolument incroyable parce qu'il y a, vous imaginez bien, évidemment, un judoka, il ne mange pas la même chose que celle qui fait la danse aquatique ou le Teddy Riner. Voilà, c'est pas la même chose que
non, mais ça a l'air comme assez végétarien quand même dans l'ensemble. Ça a l'air assez soft.
Oui, il y aura
beaucoup d'hydrates de carbone aussi.
Et puis, ils font très attention, effectivement. C'est donc à la Cité du Cinéma. Et puis, il y aura des lieux où on pourra aller dîner ou déjeuner, des lieux de compétition qui seront notamment à la place de la Concorde. Ça sera végétarien.
Mmh.
Un hot dog végétarien, vous vous rendez compte?
Oui,
j'ai
entendu ça.
La chance.
Oui. Bientôt dans vos
assiettes. S'il fallait faire une hiérarchie des problèmes d'organisation auxquels on risque d'être confronté pendant ces Jeux Olympiques, celui pour lequel, à mon avis, on peut ne pas se faire trop de soucis, c'est quand même cette logistique
de Sodexo.
Pour les athlètes, Sodexo, quoi.
Ils sont assez habitués.
Ils ont l'air d'avoir le truc en main.
Ils ont l'habitude de relever des défis
aux États-Unis,
assez considérables.
Ils ont 60% de chiffre d'affaires, tous les grands événements.
Donc, je pense qu'ils sauront faire.
Bon. À la baguette.
Pas là-dessus qu'on peut être le plus inquiet.
À la baguette.
C'est rentable pour eux ou pas?
Les datos.
Ouais.
C'est rentable pour eux.
Il y a 80 millions de chiffre d'affaires, je lui ai posé la question. Il y a 80 millions de chiffre d'affaires. Je n'ai pas eu le résultat, mais savoir exactement combien c'était rentable. Et elle a dit clairement, oui, c'est rentable. Et en plus, si vous voulez, en termes d'image.
Ah bah évidemment,
c'est fou quoi.
Bien, tout va bien pour Sodexo.
Oui, alors en revanche, c'est pas le cas chez Lagardère, c'est un peu le sujet du jour. Le groupe Lagardère n'a donc plus de PDG depuis ce matin. Arnaud Lagardère a annoncé qu'il abandonnait ses fonctions après avoir été mis en examen hier. Mathieu Pechberti, bonsoir. Est-ce qu'on peut parler de fin de parcours?
Oui, alors là, c'est vraiment la fin de parce que c'est vrai que le feuilleton autour du groupe Lagardère et d'Arnaud Lagardère, dure depuis maintenant plusieurs années.
Ouais.
Il y a eu
digne d'une série Netflix.
Le raid,
2011.
Oui, presque, succession. Ouais. Le raid du fonds activiste Amber Capital, puis le raid de Vincent Bolloré, puis le contre-raid de Bernard Arnault. Bon, bref. Là, le problème, c'est que pour venir un petit peu au fait, la mise en examen qui était prononcé hier contre Arnaud Lagardère, il y a deux volets. Il y a d'abord les volets qui concernent ses sociétés personnelles qui, elles, portent la participation dans le groupe Lagardère.
Ouais.
Et là, il est soupçonné, en tout cas, d'abus de biens sociaux pour avoir, en gros, utilisé l'argent de ses sociétés personnelles.
Pour un montant assez énorme.
Avec des montants qui sont de plusieurs dizaines de millions d'euros sur plusieurs années. Et c'est vrai qu'il avait un train de vie assez important. Et tout le monde savait bien qu'il serait très probablement mis en examen pour ce sujet-là. Et puis, il y a l'autre volet qui concerne là directement le groupe Lagardère, qu'il dirige, dont il n'est seulement actionnaire, où là, il y a des sujets notamment d'achat de votes.
Voilà.
Il y a eu une assemblée générale en 2018 qui a été assez mouvementée, au cours de laquelle l'un de ses actionnaires, le Qatar, avait changé son vote quelques jours avant l'AG. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, ces mises en examen étaient globalement attendues. Sauf que la véritable surprise, c'est que le parquet national financier lui a en plus mis sous le nez une interdiction de gérer que personne n'attendait, même chez Lagardère, même chez Vivendi, hein, qui contrôle le groupe Lagardère depuis un an maintenant. Et donc, il n'a plus le droit de gérer aucune société, sauf que Arnaud Lagardère, dans le cadre de son accord global avec Vivendi, quand Vivendi a pris le contrôle de Lagardère, a obtenu le fait qu'il reste PDG du groupe Lagardère, qu'il devienne PDG d'Hachette, hein, le groupe d'édition qui est la principale filiale, l'une des deux principales filiales de Lagardère, et également il est gérant d'une société dans laquelle il y a les radios du groupe, notamment Europe 1. Tout ça pour dire que c'est venu d'un coup. Tout le monde a coupé son téléphone chez Vivendi et chez Lagardère parce que c'est quand même un petit peu la panique et qu'il faut le plus rapidement possible trouver des remplaçants pour ces trois postes.
Oui.
Celui de PDG de Lagardère étant évidemment le plus difficile.
Le conseil d'administration dit qu'il va se réunir très vite pour trouver les solutions provisoires pour assurer la gouvernance. Comment est-ce qu'on va s'en sortir chez Lagardère sur ce
sujet ? Alors, il y a Maxime Sada hein, quand même qui a été dépêché par le patron de Canal, hein, qui est vraiment un des hommes liches de Vincent Bolloré, qui a été dépêché chez Lagardère. Est-ce que c'est lui qui va monter ? Enfin, de manière, il était là pour surveiller, enfin, en tous les cas, pour gérer la boîte. Est-ce que c'est une des solutions ? Peut-être pas, ou partiellement une solution. J'ai envie de dire, on peut toujours trouver un PDG. Il y en a plein là qui sont dans Paris, qui cherchent des postes de président d'honneur, président non exécutif. Je peux faire la liste hein, si vous voulez. Je vous trouve.
Oh bah,
non. Il y en a quand même quelques-uns. Non, ce qui est intéressant, c'est de voir. Mais en fait, je pense qu'on connaîtra jamais vraiment, ou peut-être dans longtemps, les dessous de toute cette affaire Lagardère, de la prise de contrôle par Bolloré, parce que c'est Joseph Ogourlian, donc le patron, comme le disait Mathieu, du fonds activiste Amber, qui a déposé cette plainte. Et il faut voir que Joseph Ogourlian, donc, était avec Bolloré, contre Arnaud Lagardère, contre Bernard Arnault. Et puis ensuite, finalement, il y a eu un retournement de situation. Donc, Joseph Ogourlian a apporté ses actions à Bolloré et qui lui-même s'est réconcilié avec Arnaud Lagardère, un peu sur le dos de Bernard Arnault. Et donc, maintenant, ils sont les meilleurs amis du monde. Ici même, Yannick Bolloré vous a expliqué, mais Arnaud, mais évidemment, Lagardère, c'est quelqu'un de formidable, il sera un excellent président, etc., etc. Moi, je ne peux pas m'empêcher, mais peut-être je suis trop... je sais que Mathieu ne pense pas la même chose. Moi, je pense que quelque part, les Bolloré, ça se demandait s'ils n'avaient pas anticipé tout ça, quoi.
Bah, en tout cas, non, mais si on regarde juste, Manu, quand même, le détail du deal qui a été trouvé en novembre 2023, Lagardère a donc été nommé PDG pour 6 ans avec une rémunération annuelle de 3,5 millions d'euros. Mais ceci dit, est-ce qu'il était encore impliqué dans les décisions opérationnelles ?
Mais tout ça est totalement dérisoire. C'est-à-dire que Arnaud Lagardère,
c'est
un agneau, c'est une pelote de laine entre avec laquelle jouent tous ces fauves. Voilà. La réalité, c'est que c'est quelqu'un qui n'a jamais voulu faire ce qu'il a fait. Je veux dire, quand son père meurt en 2003, il se retrouve propulsé à la tête d'un empire dont il ne veut
pas. Il s'y était préparé auparavant.
On n'en veut pas, Emmanuel, il aurait très bien pu dire qu'il n'en voulait pas et puis rester président d'honneur et continuer à toucher ses dividendes.
Regardez, de toute façon, ça n'a été qu'une longue descente aux enfers. C'est-à-dire qu'il n'a cessé de brader le patrimoine familial, toutes les diversifications qu'il a tentées, notamment dans le sport. Alors, ça a été un échec.
Il a vendu
les 2 milliards d'euros de participation de son groupe dans EADS. Et voilà. Ensuite, il a voulu faire son aventure dans le sport business et puis ça n'a pas abouti.
Et ça a échoué.
Alors que
toutes les promesses qu'il avait faites sur la tombe de son père, que jamais il vendrait pareil match, etc. Voilà. Et donc, la réalité, c'est que il faut lire l'interview. Il a accordé une interview il n'y a pas longtemps à Libération où il dit qu'il n'a jamais été aussi heureux. Mais parce que tout simplement, je pense que tout ça ne l'intéressait pas fondamentalement.
Non, mais il n'était pas obligé de rester à ses fonctions opérationnelles.
Mais parce que vous sous-estimez complètement la dimension psychanalytique, historique, affective, familiale.
Et puis oui, j'entends bien.
Il y a 30% de business et il y a 70% de psychanalyse.
Bien sûr, d'affect et puis d'ego. Mais il aurait très bien pu garder un poste de président d'honneur.
Et puis une question de rémunération.
Edwige.
Il y a quand même une question de rémunération. Alors, l'affect et la rémunération.
Justement, puisqu'on parle d'affect, avant de vous redonner la parole, on va juste écouter. Document BFM Business, Bernard Arnault, tenez, puisque vous en parliez. Sur BFM Business, c'était le 1er décembre 2020. Il a remporté la veille, Bernard Arnault, le grand prix du manager de la décennie au BFM Awards. Il est au micro de Christophe Jacubizine pour en parler. Et Christophe lui demande aussi, parce que peu de temps avant, il est monté à 15% du capital de Lagardère. Et Christophe Jacubizine lui demande pourquoi vous avez fait ça. Il dit, je l'ai fait pour Arnaud, mais effectivement, je l'ai fait aussi pour Jean-Luc. Écoutez Bernard Arnault à l'époque.
Pour aider Arnaud Lagardère, parce que Jean-Luc, son père, était mon meilleur ami. Nous jouions au tennis toutes les semaines ensemble. J'ai été absolument désolé de le voir partir si vite et de manière inattendue. Je s'y attendais absolument pas. Et il m'avait dit, s'il m'arrive un jour quelque chose, et si Arnaud a des problèmes, essaye de t'en occuper.
Bon, donc on comprend bien en effet la motivation de la décision de Bernard Arnault. Ceci dit, est-ce que très concrètement, le fait que Arnaud Lagardère aujourd'hui abandonne ses fonctions opérationnelles va changer quelque chose? Est-ce qu'il était, Mathieu, vraiment impliqué dans les décisions opérationnelles au jour le jour? Non.
Évidemment non, voilà. Ça a été dit, donc c'était très symbolique. Mais ce qui est quand même l'ironie de l'histoire, j'ai envie de dire, c'est que quand il a accepté, contraint, encore une fois, il n'a agi que sous la contrainte, Arnaud Lagardère, depuis des années et des années. Toutes ces décisions ont été prises sous la contrainte. Quand il a été contraint de vendre le groupe Lagardère, d'abord de déverrouiller et de supprimer la commandite, qui était un statut complexe,
qui lui donnait
tous les pouvoirs chez Lagardère, puis ensuite accepter l'OPA de Vincent Bolloré, dans cet accord global pour sauver la face, il avait réussi, Vincent Bolloré l'avait laissé faire, de conserver un poste qui est effectivement un poste de PDG du groupe Lagardère, mais il ne gère pas comme n'importe quel PDG. Voilà, il a beaucoup de lieutenants de Vincent Bolloré à la fois au-dessus de sa tête et sous ses pieds.
Parce que les siens sont partis.
Et donc, ça fait longtemps qu'il n'avait plus de lieutenants. Ouais. Donc, il ne gérait pas vraiment son groupe, mais il était là et il avait les postes et les fonctions pour continuer à faire quelque part illusion. Et à chaque fois, effectivement, qu'on demandait aux dirigeants de Vivendi, en particulier à Yannick Bolloré, comment ça se passait, on nous disait, mais ça se passe très bien, c'est pas très bon. En fait, ça ne les intéressait pas vraiment, sauf qu'on s'est toujours demandé quand est-ce que Vincent Bolloré allait finalement décapiter Arnaud Lagardère, et c'est finalement la justice qui l'a fait.
Ça faisait plus,
et encore
faisait
une
plus,
fois, là, il agit sous la contrainte. Là où il y a des années, tout le monde lui disait et disait dans le milieu des affaires qu'il aurait dû abandonner la gestion du groupe Lagardère pour la confier à quelqu'un, un financier pour gérer ça plutôt que de laisser le groupe partir un petit peu en vrille. Là, finalement, c'est la justice qui a décidé ça. Vous savez, une interdiction de gérer,
c'est rare. Hein.
C'est très rare. Et en plus, là, c'est dans toutes les sociétés. C'est-à-dire, c'est même pas que dans les sociétés personnelles qui sont les siennes, c'est dans tout le groupe. Et donc
ça faisait plus illusion depuis longtemps. On ne saura jamais.
On le sait, c'est une plainte qui effectivement était déposée par Rambert, dont le complice était Vincent Bolloré.
Je pense que c'est l'humiliation ultime quand même,
ça c'est clair,
parce que là il doit partir. On a découpillé en fait la grenade, c'était au moment du fait qu'il a dû mettre fin à la société en commandite parce qu'il avait un endettement qui était colossal, notamment sur le poids des financiers. Ça, c'était le Crédit Agricole, notamment, mais pas que. Et où là, on lui a dit, maintenant, c'est fini, parce que jusqu'à présent, il arrivait toujours à s'en sortir. Et là, ça a été le début de la fin, parce que maintenant, on voit la gestion de ce groupe depuis la mort de son père, et c'est-à-dire que ça soit tous ses bras droits, tous ses lieutenants qui sont partis, pas tous, il reste encore Pierre Leroy qui est aussi, je crois, mis en cause, c'est qu'ils ont été payés absolument des mille et des cents. Enfin, je veux dire, c'était des rémunérations absolument vertigineuses. Il y avait le communicant Ramzi Kirun, soit c'était qu'il est parti avec un paquet de 24 millions. C'est des sommes considérables. Et là, maintenant, tout va être sur la table, on va tout voir.
Oui. Alors Mathieu, on précise aussi qu'il y a deux commissaires aux comptes qui ont validé les bilans de Lagardère SAS et LCM de 2013 à 2019, voilà, qui sont aussi mis en examen.
Oui, et l'ancien dirigeant du groupe Lagardère, Pierre Leroy, un des barons du groupe Lagardère, comme on disait à l'époque, déjà du temps de Jean-Luc Lagardère, et que Arnaud Lagardère avait gardé. Pour parfaire un peu le débat, je tiens quand même à souligner, parce que c'est écrit dans le communiqué, il faut quand même le dire, il est mis en examen, il n'est pas condamné, donc il est seulement mis en examen, donc il est évidemment présumé innocent. Il va déposer un recours contre sa mise en examen. Quand bien même il y aurait un procès d'Arnaud Lagardère dans quelques années, on n'en est pas là. Lui dit que sa démission, finalement, enfin qu'il n'en est pas une, il renonce ses fonctions, n'est que provisoire en attendant de revenir. Vu la situation, quand bien même...
Votre pari, c'est qu'il ne reviendra pas, quoi.
Il ne pourra pas revenir. Bon. après une telle mise en examen et après avoir été vraiment expulsé de ses fonctions par la justice, même s'il était relaxé ou même s'il n'y avait pas de procès pour Arnaud Lagardère, il serait très difficile qu'il revienne en poste.
Mais reconnaissez qu'au fond de lui, il a vécu 20 ans de supplice.
Oui.
Et qu'il est aujourd'hui soulagé. Si vous reprenez le livre de Raphaël Baquet et Vanessa Schneider, vous savez, qui fait le portrait d'une vingtaine de grandes familles avec les héritiers, etc. Alors, celle où ça se passe bien, celle où ça se passe mal. Et très clairement, l'histoire Lagardère, c'est la plus triste de toutes les grandes histoires de succession.
C'était quoi d'ailleurs ? Vous aviez une expression comme ça, vous êtes dans les grandes aventures patrimoniales familiales, la première génération construit des
valeurs.
La deuxième gère et la troisième dilapide. C'était ça, en fait.
Ouais, mais là, ça va au-delà de ça.
Et là, c'est la deuxième qui dit la
pire. Moi, je pense profondément que c'est quelqu'un qui a toujours pensé qu'il n'a jamais été à la hauteur de ce qu'a pensé son père. Je pense que c'est quelqu'un qui a une très basse estime de lui-même et que c'est quelqu'un qui accepte tout ce qu'il subit. Parce que beaucoup de gens auraient des réactions d'orgueil, etc. Et je pense que c'est quelqu'un qui accepte ce qu'il subit.
C'est quelqu'un, c'est un gentil au départ.
Absolument, c'est un gentil.
On l'a bien connu,
quelqu'un qui accepte un peu tous ses châtiments.
Oui, et en même temps avoir créé ce statut de commandite.
C'est sa faute, etc.
Oui, mais c'était quand même lui donner une confiance totale.
Mais je suis d'accord.
C'est son père qui l'avait.
Mais je suis d'accord avec Edwige, c'est quelqu'un qui est.
Il n'était pas fait, en tous les cas, pour être l'héritier.
Il n'était pas fait pour ça.
Qui, lui, était un grand mousquetaire.
Ouais. Feuilleton qu'on va suivre évidemment sur BFM Business. Est-ce qu'on dit un mot de l'économie française ?
Ah bah oui, c'est une bonne nouvelle, on en parle. Alors finalement, la France a fait un peu de croissance quand même au premier trimestre, un petit peu. On est à 0,2%, nous dit l'INSEE, mais je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, on parlait de zéro.
Comment vous regardez ce chiffre de 0,2% de croissance, Manuel Espèce ?
Objectivement, c'est assez cohérent quand même avec tous les signaux qu'on a depuis le début de l'année. Je crois qu'on en parlait hier d'ailleurs justement.
Bah absolument.
Le trou de l'automne.
Content de vous l'entendre dire, j'avais l'impression hier d'être un peu la seule qui disait ça va mieux.
Je vais pas arrêter de vous dire que les indicateurs de conjoncture redressaient la tête et étaient meilleurs. Donc effectivement, la fin on voit qu'il y avait beaucoup de courbes qui redressaient un peu la tête. Ce 0,2, effectivement, alors que l'INSEE nous annonçait 0 il y a encore quelques semaines. Ce qui est intéressant, c'est que toujours dans le psychodrame des 1% de croissance, est-ce qu'on va les faire, est-ce qu'on va pas les faire. C'est vrai que on a du coup finalement un scénario qui fait que ça reste une prévision optimiste mais qui n'est pas irréaliste.
Plus impossible en tout cas.
Non, parce qu'en fait,
parce qu'on a un acquis de croissance
De
0,5.
Exactement.
C'est-à-dire qu'en gros, l'acquis de croissance, c'est si vous faites 0 tout le reste de l'année, vous faites 0,5. Mais
le FMI dit 0,7 hein.
Oui, mais l'INSEE nous a dit qu'on ferait 0,3 au deuxième trimestre. Dans la même prévision un peu pessimiste. Donc, si on fait 0,3, le patron de l'INSEE, Jean-Luc Tavernier, qui était dans la matinale, nous dit, si on fait 0,3 à chaque trimestre, on fera les 1%. Or, sur le deuxième semestre, on a quand même des raisons d'espérer, avec la baisse des taux d'intérêt, avec l'Allemagne qui commence à frémir un petit peu, l'environnement international qui est un peu meilleur, peut-être un euro un peu plus bas, qui nous rendra un peu plus compétitifs. Donc, oui, finalement, et je vous rappelle quand même, et ça, on l'avait dit aussi ici, quand on a complètement fustigé le gouvernement sur sa prévision de croissance irréaliste, ça avait été le cas aussi, rappelez-vous, en 2021 et 2022, où à chaque fois, on avait dit, c'est n'importe quoi, c'est trop optimiste. C'était les prévisionnistes.
Le consensus des économistes.
Trop optimiste. Et effectivement, c'est le gouvernement qui avait eu raison.
Mais vous allez voir que Bruno Le Maire
va avoir raison
avec son 1% de croissance.
Là, je peux vous dire qu'à Bercy,
depuis
vendredi soir,
la chenille est champagne.
Tout va bien.
C'est champagne tous les jours.
Non mais
c'est un peu. Moi, je suis d'accord qu'on voit bien qu'on était dans un creux. On voit bien quand on discute avec les chefs d'entreprise, les responsables économiques, qui vous disent là, on est dans une période difficile. On l'a même senti un peu avant tout le monde. Nous, ici même à BFM Business, parce qu'on voyait bien qu'à partir d'octobre, novembre, le moral, il commençait à être un peu dans les chaussettes. Tout le monde disait mais c'est formidable. Mais là, on sent que c'est peut-être parce que peut-être un jour fera-t-il beau. Mais en tous les cas. Il y avait le moral qui commençait un peu à remonter.
Mais parce que c'est le grand retour du consommateur avec des salaires qui commencent enfin à rattraper doucement l'inflation avec la baisse des prix. Donc
moins
on a un pouvoir d'achat qui revient, qui reflue.
En fait, il y a une forme de normalisation. Il y a quand même à surveiller de près toujours le secteur de la construction et l'immobilier. Ouais. Et là, effectivement, ouais, on a
qui
eu les chiffres.
Pas bien, hein.
Sur les permis de construire, on est au plus bas depuis, ouais, depuis 30 ans. Ouais, ça, donc ça, c'est un secteur qui va continuer quand même à tirer l'activité vers le bas.
Oui, et ce qui est surprenant juste quand même, c'est le retour de l'investissement, parce qu'on ne s'attendait pas à ce que ça soit le cas avec la politique monétaire qui est quand même toujours un peu compliquée.
Oui, sauf que sur les marchés, ce n'est pas difficile de se financer. Et il est vrai que même si les taux d'intérêt n'ont pas vraiment baissé, les banques ont desserré quand même, ouais, un peu les taux, taux de, ouais, de l'octroi de crédit.
Ok, donc le 1% est toujours envisageable pour cette année. C'est enregistré, c'est dans la boîte. Trois minutes pour répondre à cette question, enfin tenter d'y répondre. Est-ce qu'il faut réduire, voire supprimer, vous savez, les primes à l'embauche pour les apprentis, vous savez, là, notamment la fameuse prime de 6 000 euros qui avait été mise en place un petit peu après le Covid? C'est Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, qui l'a suggéré ce matin sur BFM Business.
Exactement, et l'ironie de l'histoire, c'est que c'était elle qui les avait mises en place à l'été 2020. Alors, elle précise quand même, hein, ça devait être temporaire. Et elle pense que même si on arrête, eh bien, les entreprises vont continuer à recruter et à former parce que c'est vital pour beaucoup d'entre elles. Elles n'ont pas le choix. Écoutez.
L'argent public doit être incitatif. Je pense que pour continuer l'apprentissage, avec l'argent qui est mutualisé, les grandes entreprises vont le faire. Moi, si on peut tout garder, c'est très bien. Mais j'ai cru comprendre qu'on avait un petit problème de déficit public. Et donc, je pense que si on ne peut pas tout garder, il faut mieux réinvestir sur la formation des cuisiniers, des aides-soignantes, aussi les ingénieurs. Les ingénieurs, c'est aussi un ascenseur social. Aujourd'hui, 30% des jeunes en enseignement supérieur disent « j'aurais pas pu sans l'apprentissage ». Avant, il fallait payer. Maintenant, je suis payé. Et ma formation est gratuite.
Cela dit, c'est un tel effet d'aubaine que si vous débranchez tout du jour au lendemain, je ne suis pas sûr que les entreprises continuent, même si elles ont besoin de main-d'œuvre.
Là aussi, c'est ce qu'on disait hier, c'est-à-dire que c'est dommage d'avoir. C'est quelque chose qui marchait. Oui. Je sais bien, question, j'en parlais avec Jean-René Cazeneuve, le rapporteur de la Commission des finances. Il faut faire des économies. Mais là, l'apprentissage, ça a très bien marché. Et à lui, s'il voulait le faire, il fallait commencer à préparer les esprits, mais avant, pas au moment où on se dit tiens, hop, il faut. Je trouve 10, 20 milliards, ah bah du coup je vais couper les aides à l'apprentissage. Je trouve que le signal envoyé, il est quand même très très mauvais.
Et les annonces de la semaine dernière sur les contrats pro aussi.
Alors en même temps, il faut reconnaître que toutes les incitations de politique économique sont toujours plus ou moins efficaces en fonction du moment où vous les décidez. Rappelez-vous le débat qui est le débat par exemple sur, vous savez, les heures supplémentaires, est-ce qu'il faut les défiscaliser ou pas. Et en fait, on s'est rendu compte que l'efficacité de la mesure dépendait énormément de la conjoncture. Et là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'à l'époque où on a créé cette prime, qui est effectivement extrêmement généreuse...
Juillet 2020,
s'il n'y a pas la prime, personne n'embauche d'apprentis. Or, aujourd'hui, on est sur un marché du travail qui est quand même radicalement différent.
Ça, c'est sûr.
On nous dit qu'il y a des difficultés de recrutement, etc. Donc, ce ne serait pas absurde de réfléchir quand même à une réduction de la voilure. Notre ami Bruno Coquet, qui a fait une note très détaillée pour l'OFCE sur le sujet... Et qui est un expert du sujet, nous dit on peut gratter 8 milliards d'euros, ce qui est quand même une somme assez substantielle. Donc pour tenir compte des remarques d'Edwige qui sont justes, évidemment, on peut peut-être aller chercher quand même quelques milliards.
Non, bien sûr, je dis juste...
il faut être prudent.
Oui, on a rêvé que l'apprentissage fonctionne, enfin ça marche, on rabote.
Il y a de l'aubaine derrière tout ça, aujourd'hui.
Forcément un peu d'aubaine. Bien, c'est déjà fini pour cette première partie des experts, 18h57. Merci à Mathieu Pechberti, merci Emmanuel, Edwige, à très vite. Défilez bien demain, 1er mai, je sais pas s'il fera beau.
On défilera surtout.
Défilera à l'antenne.
On défilera à l'antenne, pas moi.
Et voilà, c'est comme ça.
Voilà, on fera
votre pénitence demain. Bon, vous irez défiler après, c'est pas grave comme ça. Merci à tous les trois, 18h57. Nous on revient dans un instant, bien sûr.
Oui, on est ensemble en direct jusqu'à 20h.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.